France Inter, il est 18h10, l'œil du tigre. Bonsoir Philippe Collin.
Bonsoir à toutes et à tous. Après 6 mois d'absence, oui, nous sommes de retour ce soir. Le Covid n'a pas encore eu la peau du tigre. C'est une immense joie de vous retrouver à ce micro ce soir sur Inter. Let's go Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Hier, il dînait encore à 11h30 du soir dans un restaurant de la Porte Maillot. On aurait juré une fête vénitienne car ces hommes, avec leurs maillots bariolés, ressemblaient de loin à des lampions. Puis ils burent un dernier coup, cela fait ils se levèrent et voulurent sortir, mais la foule les porta en triomphe. Il s'agit des coureurs cyclistes partant pour le Tour de France.
Les forçats de la route, un récit mythique signé Albert Londres, reportage sur le Tour de France 1924. Un voyage épique dans un pays en pleine mutation, un texte mis en scène au studio théâtre de la Comédie Française, Chic. En miroir, le triple champion dévoile ses secrets. C'est le titre d'un portrait publié en 1955 par l'immense Gabriel Garcia Marquez, portrait d'un coureur cycliste colombien devenu l'icône de tout un pays, où Marquez, le futur prix Nobel de littérature, touche du doigt le théâtre intérieur d'un grand champion. Donc, en cette rentrée, un exercice ce soir de littérature comparée. Vaille que vaille, le Tour de France 2020 s'était lancé hier de Nice avec une arrivée prévue à Paris le 20 septembre. Depuis ses origines, l'histoire du Tour porte les stigmates du temps, c'est ce qui fait sa signature depuis 1903. Et cette édition 2020, ne serait-ce que par ce calendrier décalé, portera l'empreinte de la période trouble que nous traversons. Et bien de la même manière, malgré cette crise sanitaire sans peur et sans reproche, Nicolas Lormeau, sociétaire de la Comédie Française, passionné de cyclisme, remonte sur scène à partir du 11 septembre pour interpréter son adaptation des Forçats de la Route, une pièce jubilatoire. Nicolas Lormeau, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu.
Merci.
À vos côtés ce soir, Pierre Boisson, journaliste, rédacteur en chef du magazine Pédale, du groupe Sopresse, groupe qui vient justement d'éditer ce texte fantastique et inédit en français, de Gabriel Garcia Marquez. Bonsoir à vous, Pierre aussi.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu, bien entendu.
Merci.
Vous êtes bien sur France Inter, dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Ce soir, le vélo, ce sport littéraire. L'œil du tigre, c'est parti.
L'œil du tigre, Philippe Collin, sur France Inter.
Alors, on entame cette 6e saison avec un nouveau rendez-vous en partenariat avec le quotidien L'Équipe, le journal du sport et de l'automobile, comme on disait autrefois. Chaque semaine, donc, Pierre-Étienne Minanzio, une plume du canard, viendra mettre en lumière les liens qui unissent la musique et le sport. Ils sont légion, figurez-vous. Et ce soir, grande boucle oblige, on va causer cyclisme. Pierre-Étienne, bonsoir et bienvenue à bord.
Bonsoir à tous.
Alors, pour cette première victoire en chantant, c'est le titre de la chronique, on commence donc avec le Tour de France.
Oui, spontanément, si on devait associer une musique au Tour de France, ce serait sans doute l'accordéon d'Yvette Horner qui animait la caravane de la Grande Boucle dans les années 50. Ou alors ce seraient ces fanfares qui, dans les villages, se mettent à jouer au moment où les coureurs passent. À événements populaires, musique populaire, c'est assez logique. Pourtant, selon moi, les meilleurs morceaux dédiés à cette épreuve ont été composés par un groupe on ne peut plus branché, idolâtré par David Bowie, Kraftwerk. Cette formation, qui continue de se produire sur scène, a été fondée en 1970 dans l'ex-RFA à Düsseldorf. Elle a véritablement jeté les bases de ce qu'on a appelé ensuite la musique électronique, grâce à un usage précoce des boîtes à rythme et des synthétiseurs. Si je devais résumer la démarche de Kraftwerk, je dirais, au risque de choquer les puristes, que le groupe propose des phrases musicales répétitives accompagnées d'un discours ambivalent sur les bienfaits de la modernité.
Très bien, mais alors quel est le rapport, Pierre-Étienne, entre les pionniers de Kraftwerk et le Tour de France ?
Eh bien, à première vue, il n'y en a absolument aucun.
Ok.
Si ce n'est que les membres de Kraftwerk sont d'authentiques passionnés de la petite reine. En 2014, j'avais eu la chance d'interviewer pour L'Équipe leur leader, le très discret Ralf Hütter, qui m'avait confié qu'à 68 ans, il continuait de pratiquer le cyclotourisme à haute dose et qu'il emportait son vélo avec lui en tournée pour faire de longues sorties entre chaque concert. Eh bien, cette passion s'est retranscrite dans la musique de Kraftwerk dès 1983 avec la publication d'un 45 tours nommé tout simplement Tour de France. Extrait.
Thank you.
Dali en grand braqué. Tour de France, Tour de France. Sprint final à l'arrivée. Tour de France, Tour de France. Ah.
Alors, comme on vient de l'entendre dans ce titre, Kraftwerk honore la grande boucle en égrenant des lieux qui lui sont intimement liés. Le Galibier, le Tourmalet, les Champs-Élysées. Mais ici, le culte rendu à cette course s'opère également via des boucles mélodiques entêtantes qui suggèrent les efforts récurrents produits par les coureurs du Tour de France. Ceux-ci incarnent d'ailleurs une forme d'idéal pour les membres de Kraftwerk qui aiment à se définir comme des hommes-machines. Cette réflexion musicale sur le cyclisme s'est prolongée 30 ans plus tard, en 2003, avec la sortie d'un album intitulé Tour de France Soundtracks, qui comprend le titre de 1983 remixé, mais aussi 11 autres morceaux, dont celui-ci, Aéro Dynamique.
Alors ce morceau, Pierre-Etienne, il semble un peu éloigné quand même de l'univers du Tour de France, non ?
C'est vrai, mais en réalité, pour pleinement appréhender ce Tour de France soundtrack, il faut prendre en compte la manière dont Kraftwerk traduit ce disque en live. En 2014, j'avais vu le groupe se produire à la Fondation Louis Vuitton et c'est un des meilleurs concerts auxquels j'ai jamais assisté. Pendant que le Quatuor interprétait sur scène les morceaux de Tour de France Soundtracks, on pouvait voir derrière eux des vidéos vintage du Tour en 3D, mettant en scène des champions des années 50 ou 60 comme Fausto Coppi, Rick Van Looy ou Jacques Anquetil. Ce mélange entre des sons futuristes et des visuels nostalgiques constituait un hommage judicieux au Tour de France, une course séculaire qui se joue justement des repères temporels. Elle se renouvelle chaque année tout en célébrant constamment son passé qui constitue son bien le plus précieux. Car la fascination qu'exerce aujourd'hui le vainqueur du Tour vaut en grande partie par le prestige de tous ceux qui l'ont précédé dans le palmarès de la course. À mes yeux, l'album Tour de France Soundtracks retranscrit parfaitement cette manière d'avancer en regardant toujours derrière soi qui caractérise la grande boucle et qui explique pourquoi elle vieillit si bien. Tout comme la musique de Kraftwerk d'ailleurs.
Un peu de musique allemande pour commencer cette nouvelle saison dans l'œil du tigre. Merci beaucoup Pierre-Etienne Mignonzio, à la semaine prochaine. Salut Pierre-Etienne.
Salut.
Allez, on reste dans la cadence, en danseuse, braquée 54-13. Voici l'histoire du dimanche soir. Le 22 juin 1924, dans les allées du Luna Park, à l'emplacement actuel du Palais des Congrès à Paris, 157 cyclistes s'échauffent avant de s'élancer pour la 18e édition du Tour de France. Dans son automobile siglée Renault, le grand reporter Albert Londres s'apprête à leur filer le train sur les 15 étapes prévues, 5425 km, soit 2000 de plus que l'édition 2020 qui a pris le départ hier de Nice. Albert Londres s'est vu proposer par le Petit Parisien de couvrir la course et à peine le départ donné, le journaliste va vite prendre conscience de l'engouement populaire pour cette compétition unique au monde.
Un quart d'heure plus tard, j'aperçus le numéro 223 qui changeait un pneu sur un trottoir. C'était le premier Guignard. J'arrêtais ma Renault. Eh ben, lui dit, je vous ai pas verni. Il me répondit, faut bien qu'il y en ait un qui commence. Mais soudain montèrent des cris de « Fumier, nouveau riche et triple bande d'andouille !» Je fus obligé de constater que, quoi qu'étant seul, la triple bande d'andouille n'était autre que moi. Alors je vis que j'avais interrompu la marche de tout un peuple passionné qui suivait les coureurs d'un pas olympique. Il faisait encore nuit, nous roulions depuis une heure, et cette fois, tout le long d'un bois que nous traversions, de grands feux de sauvages s'élevaient. On aurait cru des tribus venant d'apprendre la présence d'un tigre dans le voisinage. C'étaient des Parisiens qui, devant ces braseros, attendaient le passage des géants de la route. À la lisière du bois, il y avait une dame grelottant dans son manteau de petit gris et un gentleman en chapeau claque. Il était 3h35 du matin.
Et oui, en 1924, le Tour de France se courait aussi pendant la nuit. C'est un extrait de ce spectacle extraordinaire que vous pourrez revoir à la Comédie Française au Studio Théâtre à partir du 11 septembre. C'est Nicolas Lormeau qui à la fois interprète et qui a adapté ce texte magnifique d'Albert Londres. Alors, pour commencer, Nicolas, où on est dans sa vie, Albert Londres, quand le Petit Parisien, journal quotidien, lui propose de suivre l'édition du Tour de France 1924. Il est déjà célèbre, Albert Londres.
Oui, il est célèbre, et notamment pour ce texte sur le bagne de Cayenne.
Absolument,
il 1923. Avait fait un reportage exactement sur sur les forçats du bagne de Cayenne. Et je pense que en 1924... En 2024, il y aura théoriquement les Jeux Olympiques à Paris, et en 1924, c'était les Jeux Olympiques à Paris. Mmh. Et le Tour de France était très populaire, mais j'imagine que le Petit Parisien s'est dit nous allons faire appel à une grande plume qui n'est pas du tout spécialiste du cyclisme, qui n'a jamais vu une course de vélo. D'ailleurs, on le voit au cours des 15 étapes, son regard sur les cyclistes évolue. Au début, il décrit les choses, après il devient ami, après il prend parti, il a milité d'ailleurs, il a été critiqué pour ça, le règlement a légèrement été modifié à la suite même de certains articles qu'il a fait à la suite de l'abandon des frères Pélissier d'ailleurs au cours de la deuxième étape. Mmh. Et effectivement, il découvre ça et il est saisi par ces hommes. On est 10 ans après la guerre, 10 ans après le début de la guerre, mmh. puisqu'on est en 1924, et qui sont des soldats du sport,
enfin,
qui sont comme ça et qui se lancent. Et effectivement, ces articles sont saisissants d'abord de vérité et de puissance littéraire.
Alors justement, il vient en tant que littéraire, il vient en tant qu'écrivain, il est là aussi pour sonder les hommes, les caractères, les souffrances, il vient sonder l'âme de ces bagnards, ces forçats de la route, Nicolas Lormeau.
Ouais, c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'il s'attache à quelques-uns. En particulier, il s'attache à Lavoine qui manifestement fait des bons mots. À mon avis,
Jean Lavoine.
Oui, il crée des personnages. Il crée des personnages. Tiberguin qui apparemment est très séducteur et qui a des fans féminines autour de la route. Voilà,
un
homme à fan. Donc, je pense qu'il invente des personnages comme ça. Et d'ailleurs, moi, ça m'a rendu service parce que j'ai voulu leur donner une voix à chacun. C'est-à-dire que
ce qui fonctionne très très bien dans le spectacle.
Voilà, j'ai essayer ça et donc effectivement il incarne, on suit ces hommes et notamment certains en particulier. Il y a des losers complets qui sont très attachants et des héros, ce Franz qui est une machine à pédaler qui n'a aucun sentiment jamais, voilà, donc c'est très très amusant, ouais, très vivant, ouais, ces figures.
Absolument, il y a aussi le talent de l'écrivain Nicolas Lormeau. Il y a des passages absolument exquis de ce point de vue là, notamment autour de la poussière, qui est une prouesse littéraire. Je trouve ça extraordinaire parce que il s'aperçoit que ces coureurs cyclistes avalent de la poussière. Alors racontez un peu nous, parce que il dit par exemple que la poussière du Morbihan ne vaut pas celle du Finistère et qu'en plus celle de la Vendée est un peu plus épicée. C'est absolument génial comme description.
En fait, il est sidéré. Cet été, je me suis amusé. Je rentre de vacances. J'étais à Megève dans les Alpes et il y a certaines pistes qui sont encore pratiquées par des 4x4 là, par les bergers et tout ça. Et certains sentiers sont marqués « sentiers sans poussière ». Et je me suis dit, tiens, c'est drôle, qu'est-ce que ça veut dire? Et effectivement, lorsque j'étais randonneur, j'ai été doublé par un 4x4. Et là, ça fait beaucoup de poussière.
Et, oui.
Et eux, ils roulaient sur des routes qui étaient des fois à peine bitumées, asphaltées. Enfin, comme ça, il y avait de la poussière. Il dit, c'est de la poussière de goudron. Mm-hmm. Donc ça devait être, des fois, c'était de la grave, une sorte de grave à peine recouverte de goudron. Et ils étaient suivis par des voitures, quand même, sur tête au moins. Donc on imagine la poussière que ça soulevait. Ils étaient là-dedans toute la journée, enfin 20 heures par jour, 18 heures. Et effectivement, c'est ce qui a marqué Albert Londres. On n'y voit pas à un mètre. Il dit, à un moment donné, des confrères belges dans une voiture dorment la bouche ouverte. De temps en temps, ils sortent une cuillère de leur poche, introduisent l'instrument dans leur bouche, c'est pour la déblayer de la poussière qui les étouffe, ils se rendorment. C'est incroyable. Et donc effectivement, la poussière, à la fin, dans son dernier article, il refait un bilan, il dit ils ont avalé les Pyrénées et les Alpes, ils ont roulé sur du pavé, ils ont roulé sur du silex, mais le plus gros danger n'était pas ça, c'était les automobiles. Pendant 5000 km, ces automobiles ont raboté la route sur le flanc des coureurs. Elles l'ont raboté en montant, elles l'ont raboté en descendant. Cela faisait d'immenses copeaux de poussière. La bouche desséchée, les yeux brûlés, ils ont avalé la poussière sans rien dire. Oui. Donc apparemment, c'est pas les côtes, parce qu'ils n'avaient pas de dérailleur, n'oublions pas.
Oui, pas de dérailleur à l'époque.
Il n'y avait pas de dérailleur à l'époque, ils ne connaissent pas le dérailleur. Les routes n'en sont pas, elles sont ouvertes, il y a des animaux, il y a des gens, mais apparemment...
On
roule la nuit, forcément, puisque la plus courte étape de ce tour est bien plus longue que les étapes marathon d'aujourd'hui. Il faut se rendre compte. Voilà, il suffit d'avoir fait la route des vacances. Sable d'Olonne, Bayonne.
Oui.
482 bornes.
Mmh. Une des dernières étapes, Nicolas, prend le départ à minuit.
Oui, absolument.
De Metz,
pile.
Pour arriver à 20h le lendemain.
Exactement.
On imagine 20h
voilà.
Sur son vélo en pleine nuit. On traverse la France de nuit.
Le plus long, c'est les Sables d'Olonne Bayonne. Mmh. 10h du soir, 6h30. Ils arrivent le lendemain à 6h30.
À 18h30. Albert Londres fréquente aussi les coureurs, évidemment. Il côtoie les vedettes du peloton, notamment les frères Pélissier, Henri et Francis, deux cyclistes à l'époque très populaires. On les a un peu oubliés, mais c'était vraiment deux grandes vedettes. Et eux, ils ont abandonné la course dès les premiers jours. C'est à Coutances, au café de la gare, qu'Albert Londres les interview devant des bols de chocolat chaud. Et Henri Pélissier donc explique à l'écrivain journaliste les raisons de leur abandon.
Ce matin à Cherbourg, un commissaire s'approche de moi et sans rien me dire, relève mon maillot. Il voulait s'assurer que je n'avais pas deux maillots. Qu'est-ce que vous diriez, vous, si je soulevais votre veste pour voir si vous avez bien une chemise blanche? J'aime pas ces manières-là, voilà tout. Mais qu'est-ce que ça pouvait lui faire que vous ayez deux maillots? Ah, mais je pourrais en avoir 15. Mais j'ai pas le droit de partir avec deux et d'arriver avec un. Mais pourquoi? C'est le règlement. Faut pas seulement courir comme des brutes, mais geler ou étouffer. Ça fait également partie du sport, paraît-il. Alors je suis allé trouver des grands. Alors, j'ai pas le droit de jeter mon maillot sur la route, alors? Non, vous ne pouvez pas jeter le matériel de la maison. Bah, il est pas à la maison, il est à moi. Je ne discute pas dans la rue. Ouais, bah si vous discutez pas dans la rue, je vais me recoucher. On arrangera ça à Brest. À Brest, ce sera tout arrangé parce que j'aurais passé la main avant. Et j'ai passé la main.
Desgranges était le patron du Tour de France. Et alors là, Nicolas Lormeau, on sent qu'à travers Pélissier, c'est Henri Pélissier, il expose déjà les tensions qui sont dans le sport. D'ailleurs, il dit le sport devient fou furieux. Nous roulons à la dynamite par ailleurs. Parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va sortir une pharmacopée sur la table du café de la gare face à Albert Londres, où il lui sort tout, la cocaïne, les pilules, le dopage, qui est déjà là quasiment.
Mais qui est complètement là et qui va perdurer d'ailleurs. Mais alors, c'est pas vraiment le sujet parce que, effectivement, c'est impossible sinon.
C'est vrai qu'à l'époque, c'est impossible de
c'est
faire
impossible.
Ce Tour de France de 5000 bornes.
C'est impossible.
Voilà, sans un soutien
sûr,
médicamenteux.
Ils sont sous amphétamine, manifestement. Oui. Il dit qu'ils ne dorment pas la nuit. Enfin, oui. Mais ils sont tous pareils. Donc après, ça change pas grand-chose. Après, c'est mauvais pour leur santé. Hein.
Ah, c'est sûr.
Quand on voit les photos après en civil, à la fin du spectacle, je montre quelques photos. On a l'impression qu'ils ont 70 ans.
Oui, c'est terrible. Oui, c'est terrible.
Ils en ont 25. Voilà. Mais effectivement, le règlement, il les embêtait parce que, par exemple, il dit que quand ils ont soif, ils doivent pomper eux-mêmes. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'assistance pour changer leur boyau. Ils crèvent 5 à 6 fois par étape. Ils vont s'acheter des boyaux dans les magasins de cycles en passant dans les villes. Ils n'ont pas le droit d'être assistés pour changer leur boyau. D'ailleurs, on voit des photos où le directeur sportif regarde le
surveille.
Coureur en train de changer le boyau. Il peut lui l'encourager, mais c'est le coureur qui doit faire tout seul. Et là, vraiment, ce règlement-là qui interdisait de partir, par exemple, avec des journaux pour se couvrir du froid dans les descentes de col. Et donc, il dit non, ça faut arrêter. Quoi. À un moment donné, il y a Suisse, Henri Collet, qui abandonne, il est blessé après une chute, il monte dans la voiture de Londres et on va lui infliger 500 francs d'amende à ce moment-là parce qu'il ne doit pas monter dans la voiture, même d'un suiveur, il doit marcher jusqu'à je ne sais pas où. Donc Albert Londres se révolte et ainsi de suite. Donc ces articles étaient un petit peu polémiques parce qu'il dit, ils ont arrêté, ils moisissent.
C'est qu'on retrouve la plume de Londres.
Et il profite de ça et les autres journalistes ont dit, mais de quoi il se mêle? Parce que, après tout, oui, ça fait partie du sport. Il y avait un côté presque, d'ailleurs il le dit, les coureurs ne sont pas des taureaux, on ne doit pas comparer la course avec une corrida. Il y avait un côté quand même souffrance, comme un exutoire, il fallait absolument qu'il y ait beaucoup d'abandon, que les gens soient blessés, soit un calvaire, soit au bout de leur force.
Voilà, exactement, le chemin de croix. D'ailleurs, Pélissier dit à Londres, le chemin de croix fait 14 stations, nous on a 15 étapes, c'est pire que l'ascension du Golgotha.
Exactement.
Pierre Boisson, vous qui êtes journaliste, j'imagine que c'est une mine d'or pour vous ce texte d'Albert Londres, qui est un récit d'un Tour de France lointain, presque séculaire, 1924. Quel regard vous portez, vous, en tant que journaliste, sur ce document d'Albert Londres?
C'est très précieux, je trouve, parce que ça nous ramène dans une époque, en fait. Et quand on lit Albert Londres, ça nous projette aussi dans le cyclisme d'aujourd'hui, je trouve, parce qu'on demande exactement aux cyclistes actuels de souffrir. Et on a envie qu'ils ressouffrent comme les forçats de la route. Et
c'est très coup, vrai, ça.
Le dialogue de Pélissier, quand j'ai vu le spectacle, m'a interloqué parce qu'il dit, voilà, nous ne sommes pas des bêtes, on n'est pas des taureaux. Et ça fait écho à ce que disent parfois des cyclistes aujourd'hui quand on remet des parties non asphaltées dans des courses. Ça a été fait sur le Tour d'Espagne, c'est fait sur le Tour d'Italie. Et ils disent, mais qu'est-ce que vous attendez de nous, en fait? Vous attendez qu'on souffre plus dur, qu'on ait encore plus mal? Et après, évidemment, il y a des critiques sur le dopage, alors qu'on leur demande, en parallèle ou presque par paradoxe, de souffrir terriblement.
Oui, on veut le spectacle de la souffrance. On veut voir le coureur qui souffre dans son ascension, dans sa course. C'est vrai qu'on réclame ça de plus en plus, on le sent bien. C'est l'heure de la première pause musicale sur Inter ce soir avec une chanson de 1949, Tour de France, titre interprété par Georges Gosset et Joe Privat est à l'accordéon. C'est le sel de la mythologie du Tour, une succession de couches sédimentaires.
Pour le Tour, nos champions partis ce matin roule avec entrain. Et les habitants des petits bleds, des faubourgs, les attendent sur le parcours. Et qu'ils s'appellent Guy, Apon, Mimile, Toto ou Gino, on les encourage en leur criant, vas-y Toto, Tour de France, quelle chance, de l'espoir emplit les cœurs. On avance en cadence, il n'y a pas de place pour les flâneurs. Pousse un peu, alors tu bouges, vas-y donc, lanterne rouge. Tour de France, quelle chance, c'est la course du bonheur. Roues dans roues sont passées pleines et vallées, c'est l'assaut des Pyrénées. Allons les grimpeurs, soyez à la hauteur, ça roupille, dit un suiveur. Assis le flemmard, le bombado dans son auto, faites un gros effort pour vous crier, vas-y Toto, Tour de France, quelle chance, le col est à trois quarts d'heure, et ça grimpe, ça regrimpe, en danseuse, les baladeurs. Si tu crèves dans la descente, t'arrêtes pas, mais t'arrêtes pas, roule sur la jante. Tour de France, quelle chance, c'est la course du bonheur. Un dernier effort, allons Toto du cran, voici les derniers tournants. Pense un peu à ce que sera l'arrivée, tout Paris va te fêter. Qu'importe ta place au classement, ce qui est bon, c'est de finir le tour sur ton vélo. Vas-y Toto, Tour de France, quelle chance, tu vas faire un tour d'honneur. Farandole, course folle, le guidon couvert de fleurs. Souriez, blondes et brunes, quel délire dans les tribunes. Tour de France, quelle chance, c'est la course du bonheur. Quelle chance, c'est la course du bonheur.
L'œil du tigre.
Ce qu'on appelle le calvaire du Tour de France commença ce matin à 10h05 aux Aubonnes. Les 80 rescapés allaient traverser les Pyrénées à bicyclette.
Philippe Collin.
L'effort les assomme. Ils vont tous lentement, mais tête baissée, tel le bœuf qui s'apprête à recevoir le coup du boucher. Les muscles de leurs cuisses grincent.
Sur France Inter.
Les forçats de la route. Texte d'Albert Londres, récit picaresque du Tour de France durant l'été 1924, mise en scène et interprété par Nicolas Lormeau au studio théâtre de la Comédie Française, autrement dit, la littérature au service du cyclisme. Eh bien, c'est également la vertu d'un feuilleton littéraire signé Gabriel Garcia Marquez. Le triple champion dévoile ses secrets, c'est le titre. Portrait d'un cycliste colombien héroïque, publié dans un journal colombien en 1955, dont Nicolas Lormeau nous lit ce soir un extrait en direct sur Inter. Nicolas, je vous laisse le micro.
Dans les journaux, on dit que je suis un bon grimpeur. On dit aussi que je perds du temps et du terrain dans les descentes. Pourtant, c'est en dévalant la rue qui menait à l'école, dans ce chariot de bois bancal et rudimentaire, que j'ai fait mes premières expériences de la vitesse. Aujourd'hui, je suis incapable de descendre à vélo aussi vite que lorsque j'allais le matin à l'école de Maraniglia, où le maître Riviera me disait « Ramon, n'oublie pas, qui veut aller loin, ménage sa monture ». Pendant ces années passées à dévaler les pentes dans ce véhicule qui m'a offert pour la première fois le plaisir de la vitesse, je n'ai jamais eu d'accident. Par contre, j'ai connu dans ma carrière de cycliste bien plus d'accidents que de victoires. Il n'y a pratiquement qu'en tricycle que je n'ai pas été victime d'un accident pour la simple et bonne raison que je n'en ai jamais eu quand j'étais enfant. Quand j'aurais pu en avoir un, je n'avais plus l'âge de rouler sur trois roues. Deux jours avant la préparation qui a précédé mon départ à Paris où j'allais participer à la route de France, j'ai failli me tuer sur la route d'Envigado. Ma camionnette a percuté un camion et a fini en miettes. Deux jours avant de partir à Cali l'année dernière pour participer aux Jeux athlétiques nationaux avec l'équipe de l'armée, j'ai fait une chute à moto, je me suis blessé à la tête et fracturé les deux mains. Au cours de notre vol de Pasto à Popayan, lors du dernier tour de Colombie, un des moteurs de l'avion est tombé en panne et nous avons dû atterrir en urgence. Je parlerai plus longuement de ces accidents au cours de ce récit. Je veux juste montrer ici que ma vie a été une longue succession d'accidents. Je conduis maintenant une voiture décapotable verte, immatriculée 2993 à Medellin, et je la conduis très prudemment, à une vitesse normale, parce que je sais que j'ai la poisse avec les accidents. Cependant, mes amis affirment que je conduis ma voiture comme un vélo, à toute vitesse.
Mesdames, messieurs, la qualité de la comédie française pour vous ce soir dans vos oreilles. Merci beaucoup Nicolas Lormoux pour cette lecture de ce récit de Gabriel Garcia Marquez. Pierre Boisson, vous appartenez au groupe Sopresse qui vient d'éditer pour la première fois en français ce texte qu'on ne connaissait pas vraiment, consacré à Ramon Hoyos. On va y revenir. Juste pour commencer, est-ce que vous nous présentez un peu ce texte ?
En fait, quand Garcia Marquez l'écrit, il est jeune journaliste. On est en 1955 et il travaille pour El Espectador, un des grands quotidiens colombiens, qui l'envoie, qui lui propose d'aller rencontrer Ramon Hoyos. Ramon Hoyos, à cette époque-là, c'est le grand champion colombien. Il a déjà gagné trois tours de Colombie et c'est une figure gigantesque. Mais Garcia Marquez n'est pas spécialement intéressé par le vélo. C'est pas un fan. Il est
comme
plutôt,
Albert Londres en fait. Hein
comme Albert Londres. Mmh. Voilà, c'est plutôt un musicien. Il aime écouter de l'accordéon aussi, Garcia Marquez. Quand il va le rencontrer, en fait, ça va durer une semaine et ils vont faire des heures et des heures d'entretien. Et en fait, au fil de ces discussions avec Ramon Hoyos, Garcia Marquez comprend qu'il y a là un langage populaire et que cette histoire n'est pas simplement l'histoire d'un champion, que c'est l'histoire de tous les champions de son pays et que c'est aussi l'histoire de la Colombie.
Et c'est vrai qu'il a un coup de génie, c'est qu'il va écrire à la première personne, Garcia Marquez. Donc en fait, il va tout doucement s'immiscer dans Ramon Hoyos, qui est un coup de génie littéraire, parce que du coup, on touche du doigt la mécanique du champion intérieur. Qu'est-ce qu'on apprend du champion, Pierre Boisson ?
On touche la mécanique du champion et on touche aussi la mécanique littéraire de Garcia Marquez. Mm-hmm. Parce que ce qui est important de préciser, c'est que juste avant, il a publié Récit d'un naufragé, qui est son premier grand bouquin qui sera publié en 1970 sous forme littéraire, mais qui avait déjà été un récit en 14 épisodes. Comme le triple champion dans Les Spectateurs. Et là aussi, dans le récit d'un naufragé, il donne la parole à ce naufragé d'un vaisseau qui a dérivé pendant des jours et des jours jusqu'à finalement survivre et atterrir sur les côtes colombiennes. Pourquoi Garcia Marquez choisit la première personne ? Parce qu'il comprend que dans le langage populaire, dans le récit que lui fait Ramon Hoyos de ce qu'est la vie d'un cycliste, il y a là une dimension mythique, romanesque, que lui-même n'arriverait pas à retrouver avec ses propres mots. Donc il va décider de pomper comme une éponge ce langage populaire qui est drôle, qui est ironique, qui est aussi romantique, et de l'écrire tel quel. Et puis, à la fin des premiers chapitres en tout cas, il ajoute une petite note du rédacteur qui lui permet de reprendre la main et de donner sa vision aussi du champion. Et là, c'est la voix de Garcia Marquez.
Est-ce qu'on peut dire un mot de la vie de Ramon Hoyos, Pierre Boisson ? D'où vient-il ? Qui est-il ? Il est né en 1932, je crois. Vient d'un milieu très défavorisé de Medellin, dans un quartier pauvre de Medellin, c'est ça ? Je ne dis pas de bêtises.
En fait, il vit à Medellin à un moment, mais c'est un paysan, c'est un fils de fermier. Il vient d'un tout petit village qui est dans les faubourgs de Medellin, mais à l'époque, c'est à une centaine de kilomètres. C'est vraiment la campagne. Et ça, c'est très important parce que finalement, effectivement, le vélo, vous avez raison, ce que vous dites, Nicolas, est tout à fait vrai. C'est à la fois, il y a une relation à la machine. Et en fait, la machine, au début, c'est du transport. Les grands champions utilisent le vélo, non pas pour faire de la course, mais pour transporter des aliments, ou, dans le cas de Ramon Hoyos, c'est parce qu'il est livreur, en fait.
C'est un petit boulot.
C'est un petit boulot.
C'est un job.
Et si vous regardez l'histoire, par exemple, du cyclisme belge, c'est ça. Pourquoi les Belges des pavés, des Flandres deviennent des grands champions? Parce qu'ils vont cueillir des betteraves en France. Ils sont pauvres, ils doivent aller arracher des betteraves en France, et ils font, c'est des jeunes hommes, ils font la course pour y aller, ils font la course pour revenir. Pourquoi les champions colombiens sont des grands champions? Parce que c'est le cas, par exemple, de Nairo Quintana, le grand champion qu'on connaît aujourd'hui. Il va de la petite épicerie de ses parents jusqu'au village le plus proche quand il est jeune pour livrer les fruits et légumes de ses parents. Cette année, moi, je suis allé sur le Tour de Colombie pour faire un reportage qu'on a fait et qu'on publie dans Pédale cette année. On est passé juste à côté. La boutique des parents est toujours là. Nairo Quintana continue à s'entraîner sur ces routes-là. C'est 10 kilomètres entre la boutique et le petit village. Et je peux vous dire que c'est terrible. Ça monte. C'est des pentes indéfinissables. Et voilà, c'est ça qui construit les champions, en fait. Et donc, ce rapport-là à la géographie et à la machine, il est indissociable de l'histoire du sport. C'est un sport populaire. C'est un sport ouvrier. Et c'est un sport, effectivement, de gens pauvres.
Et il y a l'aspect tragique, puisque je crois que la mère et la sœurs de Ramon Hoyos sont mortes toutes les deux dans un glissement de terrain d'une montagne où ils s'entraînaient, et que quelques mois auparavant, Garcia Marquez avait fait un grand reportage sur ce glissement de terrain. Donc il y a aussi tout un aspect tragique de la vie de Ramon Hoyos qui fascine évidemment l'écrivain colombien.
Ouais, c'est vrai que Garcia Marquez l'avait couvert. Il n'avait pas fait la relation, hein. Quand il rencontre Ramon Hoyos, il ne le sait pas. Il le découvre au fur et à mesure des entretiens. Et c'est l'histoire, ça rajoute à l'histoire, en fait, de ces grands champions où il y a toujours des moments, c'est pour ça que c'est romanesque, il y a toujours des moments de crise, il y a des moments de souffrance et il y a des moments aussi d'accident. Dans Albert Londres, il y a toujours l'accident qui est central dans les épopées cyclistes. Je me rappelle un passage du spectacle où c'est génial. Il y a un cycliste qui se retrouve au bord de la route et il pleure parce que je crois que c'est la quatrième ou la cinquième fois qu'il a crevé. Il avait des bonnes jambes, il est dans le Tourmalet, si je dis pas de bêtises, et il n'y arrive pas. Et en fait, voilà, oui, ça fait partie des épopées.
C'est la guigne, quoi.
C'est la guigne.
C'est la guigne, ouais, c'est
mais
la guigne.
Quand vous regardez ce qui s'est passé l'année dernière, pour revenir à un cyclisme un peu plus actuel, Thibaut Pinot qui abandonne alors qu'il est à quelques jours de l'arrivée et qui peut gagner, alors que ça fait 30 ans qu'il n'y a pas un cycliste qui a gagné le Tour de France. Voilà ce que moi j'appelle
un cycliste français.
Que, en général, c'est un cycliste qui gagne. Ouais. En général.
Mais voilà ce que j'appelle un grand champion, en fait. C'est un champion qui perd, mais qui va se relever. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi dans l'affection que les Colombiens ont, par exemple, pour Ramon Hoyos, ou qu'ils ont pour Quintana. C'est parce que c'est des champions qui souffrent, et c'est des champions qui n'ont pas de chance, c'est des champions qui tombent, mais c'est des champions qui se relèvent. Et c'est ça que les Colombiens aiment chez Ramon Hoyos, c'est qu'il a des accidents, qu'il a des drames familiaux terribles, mais qu'il revient toujours.
Il se relève à chaque fois. D'ailleurs, l'an passé, c'est un Colombien qui a gagné, Bernal. Premier Colombien à gagner le Tour de France depuis les origines, si je ne dis pas de bêtises.
Ah, tout à fait. C'est pour ça que nous, on est allé sur le Tour de Colombie cette année, parce que justement, il y avait dans l'histoire de la Colombie, c'est un des très grands pays de vélo, la Colombie, justement par rapport à ce que je disais sur l'utilité de la machine dans leur psyché nationale. Mais ils avaient toujours ce drame national ou cette ambition qui était un jour, un Colombien doit gagner le Tour de France. Ramon Hoyos est le premier à avoir couru en Europe contre les grands champions. Puis il y a eu des générations qui ont
Lucho
fait le voyage.
Lucho Herrera, par exemple.
Lucho Herrera, dans
les années 80, magnifique.
Et Fabio Parra, et puis après il y a eu Quintana. Mais en fait, il y avait toujours
cette frustration.
Et cette frustration de ne pas gagner. Et la Colombie avait le sentiment que pour être enfin un grand pays de vélo, pour être reconnu, il fallait gagner le Tour de France. Parce qu'elle a été longtemps méprisée. Quand les premiers cyclistes sont arrivés sur le Tour de France, Laurent Fignon les traitait très mal, avec une sorte de racisme du peloton qui était terrible. Et les Colombiens ont dû s'imposer à coups de coude, y compris dans le peloton, pour aussi faire respecter leur force, leur valeur et leur identité.
Allez, c'est l'heure de la seconde pause musicale. Cette fois, l'orchestre est emmené par Joy Crooks. Elle arrive de South London. Le titre, Anyone But Me.
Love me or leave me and let me be lonely. Inside my head there's a voice that controls me. I'd rather be somewhere else with anyone but me. Oh, love me or leave me and let me be lonely. Been down so long now that happy is holy. I'd rather be somewhere else with anyone but me.
7 years strong with my therapy, making mosaics of my memories. Puzzled with doubt, I'm my closest enemy. It's like this girl is squatting in my identity. She's a raver, little libertine, then a bouncer to my dopamine. Tried so hard to become a referee, to even out the game that's between my mind and me. Love me or leave me and let me be lonely. Inside my head there's a voice that controls me. I'd rather be someone else with anyone but me. Ooh, love me or leave me and let me be lonely. Been down so long now that happy is holy. I'd rather be someone. Man and wife, Peckham preacher, giving bad advice. She just does the spending and then I pay the price. Trying to be Khaleesi, but she always tricked me twice. God, I know I could do better. I'd rather be somewhere else with anyone but me.
L'œil du tigre.
Amiens. Voici les élèves d'un lycée officiellement conduits par leur pion. Où vont-ils de si grand matin? Viennent voir passer le Tour de France.
Philippe Collin.
Vas-y Henri. Vas-y Francis. Il s'agit des Pélissiers. Ils sont des rois, on les appelle comme les rois. Par le petit nom. Vas-y, Gajan, c'est à l'avoine. Vas-y Ottavio, c'est Bottecchia. Tis, Hardy. Tis, c'est Philippe Tis, de la Belgique. Vas-y la pomme, c'est Ders, Eugène Ders, de Jeune Villiers. On pourra pas dire que les lycéens français ne sont pas prêts pour les examens de fin d'année.
Sur France Inter.
Les forçats de la route recèlent des trésors littéraires sous la plume acérée d'Albert Londres, ces deux talents de l'écrivain. Comme quand Gabriel Garcia Marquez décrit les tourments du coureur colombien Ramón Hoyos. Ceci dit, les champions cyclistes, eux aussi, sur leur bécane, nourrissent la langue. Ils la font vibrer à leur manière, ils se réapproprient le langage comme ce Jean à l'avoine, coureur engagé sur l'édition 1924 du Tour de France.
Vous allez voir arriver à l'avoine, dit Jean XIII, roi de la Poisse. La place d'Alavoine n'est pas sur les routes, mais à l'Académie française. L'Académie est une institution qui doit non seulement conserver la langue, mais aussi la rajeunir. Pour cette dernière tâche, Alavoine est son homme. Trouvez-moi un écrivain, un duc, un maréchal, un avocat, un poète, qui, travaillé par le mal de mer durant l'ascension des Pyrénées, devant vous dire « c'est difficile d'éprouver un si grand malaise au cours de la plus rude étape », s'écrira « c'est décolorant pour une étape méchante d'être pompé par un inconvénient de cette superficie ».
C'est fantastique. Nicolas Lormeau, dans cette troisième partie de l'émission, j'aimerais qu'on jette des ponts peut-être entre ces deux textes littéraires, d'un côté Albert Londres, de l'autre Gabriel Garcia Marquez. Il y a une première corrélation, je trouve, c'est évidemment la dimension tragique, mais quand je dis tragique, c'est de la tragédie romaine, et romaine, grecque, je m'adresse à l'homme du français. Je disais romaine parce que je pensais à Busati, justement, avec ce texte magnifique sur le Giro, où il compare Bartali et Coppi à Hector et Achille. Ce sont des héros, Nicolas, qui affrontent à la fois les éléments et le destin. C'est vraiment des héros tragiques.
Oui, il fallait les faire exister en plus, parce que la grande différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à l'image en permanence et tout le temps. Les étapes du tour, maintenant, sont suivies à la télévision du départ à l'arrivée. De près, on voit les visages, on voit les choses. Et d'ailleurs, c'est difficile de se rendre compte. Je plaide pour... Je ne sais pas comment on pourrait faire. Toujours pas pour parler de moi. J'étais bêtement en vacances et je me dis, tiens, je vais franchir le col des saisies à bicyclette. Mm-hmm. J'y vais doucement, je fais 4 pauses, je pense mourir un petit peu. Mais j'arrive en haut, j'étais content, je suis doublé par des gens beaucoup plus âgés que moi qui me disent vas-y, courage, c'est bientôt la fin. Donc on rigole, comme ça. Bon, moi j'y allais pour me promener, j'étais fier d'arriver en haut, je me prends en photo, en dessous de la photo du col des saisies, j'étais très content. Et il se trouve que le Dauphiné est passé au col des saisies 2 jours plus tard. Je le regarde à la télé et les commentateurs, alors on se rend pas compte, je les voyais pédaler là-dessus, ils tournaient les jambes. Et c'est Jackie Durand, je crois, qui dit « Ah non, mais le col des saisies, c'est un faux plat montant. » Moi, j'étais mais désespéré. Je me suis dit, parce que évidemment, eux, leur étape, c'est 150 bornes. Moi, j'avais fait, à la fin de la journée, j'avais fait 50 bornes. J'étais fier comme tout. J'étais tout juste, si j'étais pas en train de prévenir tous mes copains que j'avais monté le col des saisies, qui est du côté sud, première catégorie. Donc voilà, j'étais très content. Mais on se rend difficilement compte, malgré les images. Et comme il n'y avait pas les images, la littérature remplace l'image et nous rend compte de ce qui se passe. Et en réalité, peut-être en lisant ces textes anciens qui n'avaient pas d'image, alors c'est là qu'on se rend compte que c'est surhumain. Moi, je dis toujours que, par exemple, dans les grandes tours, les grandes courses, c'est formidable. Le tour, j'adore, parce qu'en plus, on voit la France et tout ça. Bon, mais dans ces grandes courses, il faudrait beaucoup plus souvent nous montrer le groupetto, ceux qui galèrent, ceux qui s'arrêtent pour faire pipi, j'en sais rien, pour se soigner, pour arriver pas hors délai, parce qu'on voit que des gens. Alors c'est pour ça que le vainqueur, il est incroyable, parce qu'il est pratiquement tout le temps devant, mais on voit que des gens qui tournent les jambes de façon extraordinaire. Oui, moi, je me suis fait doubler par des gens qui étaient pas professionnel qui me doublait bien. Si le Dauphiné était passé, je pense que j'aurais pleuré. C'est-à-dire, j'aurais dit, mais comment font-ils? Mais on s'en rend pas compte à la télé. Or, avec ces textes, grâce à ces textes, alors, on voit la souffrance, on voit la sueur.
Parce qu'ils la décrivent.
Exactement.
Avec des mots.
Exactement.
On parle des muscles, des cuisses.
Exactement.
On parle de ce que ça veut dire de tirer un tronc d'arbre,
exactement,
par exemple.
Exactement. Voilà. Ils tirent de toute leur force quelque chose d'invisible caché au fond du sol et la chose ne vient jamais. Oui. Mais c'est ça. Et ça, c'est beau, grâce à la littérature.
Pierre Boisson.
Le vélo est très particulier d'ailleurs sur ce sujet, je trouve, parce que les expressions cyclistes en elles-mêmes sont des expressions très imagées. On dit, les cyclistes utilisent des mots comme « fort comme un arbre »,« se taper le front dans une bosse »,« être en chasse-patate ». Tout ça, c'est le jargon du cycliste qui est très particulier et qui est toujours imagé, et qui parfois est un peu désuet, et que les cyclistes continuent à utiliser. Et c'est vrai que nous, quand on a traduit, j'ai co-traduit l'ouvrage de Garcia Marquez avec Marion Bouvier, quand on l'a co-traduit, c'était très difficile de retrouver les expressions qui correspondent à du colombien des années 30 et qui est fleuri, imagé. C'est des expressions qu'on ne retrouve pas dans la langue non cycliste, en fait. Donc ça, c'est une vraie puissance, je trouve, une puissance imagée des récits de cyclistes. Et puis la deuxième, c'est la mémoire des corps qu'ont les cyclistes. Nous, tous les ans, dans Pédale, on fait des interviews de 4-5 heures avec un peu des cyclistes à la retraite, mais des grandes légendes. On a fait Christophe Moreau, Richard Virenque, Luc Leblanc. Je suis toujours stupéfait par les souvenirs qu'ils ont des étapes qu'ils ont courues. Ils sont capables...
Mais imprimés dans leur corps.
Imprimés dans leur corps. Ils sont capables de dire, dans le col des saisies, en 1997, je me rappelle, après le troisième virage, j'ai eu une petite douleur dans le mollet droit et je me suis inquiété. Puis au cinquième, ma cuisse gauche a commencé à gonfler. Vraiment, ils sont capables de le retranscrire, parce que la souffrance est telle qu'elle s'imprime dans les corps et dans la mémoire.
Il y a un autre parallèle qu'on peut faire avec ces deux textes, je trouve, c'est les réactions du public. Il y a une sorte de public en ébullition, on a dit le mot exutoire, mais il y a aussi une sorte de furie. D'ailleurs, Ramon Hoyos, qui est donc ce cycliste colombien, dit du public, il exige toujours plus alors qu'on passe sa vie à donner tout ce qu'on peut. Et d'ailleurs, chez Albert Londres, on entend qu'il ne faudrait pas confondre le Tour de France avec une corrida. Et c'est vrai que là, on peut apercevoir dans ces deux textes une sorte d'universalité du cyclisme à travers les réactions des publics au bord des routes. Nicolas Lormeau.
Ben oui, parce que on me faisait remarquer, le Tour de France est le troisième événement sportif en termes de nombre de spectateurs. Mmh. Et il y a du monde partout. C'est gratuit. Et on a tous, et c'est assez incroyable, on a tous des souvenirs. Enfin, moi, j'ai beaucoup de souvenirs quand j'allais en colonie de vacances à Arès sur le bassin d'Arcachon. C'était quand le Tour passait par là, toute la colo était sur le, c'était sur le bord des routes. Et ça laisse des souvenirs parce qu'en plus, en tant que spectateur, on voit rien. Oui. C'est ça qui est génial. On voit la caravane. Alors ça, c'est des souvenirs extraordinaires. Ils arrivent. Et puis, ils sont passés. Et on voit plus personne. Et alors, dans l'école, on les voit un peu plus lentement, mais on les voit pas. On voit pas la course. Et pourtant, on y va et ça laisse des souvenirs pour la vie. Et c'est la fête. Et Albert Londres le décrit très bien. Et ça reste la fête. C'est une fête incroyable, le Tour. C'est la fête de l'été, la fête des gens. Et ça, c'est unique. Parce qu'il n'y a pas de ticket à prendre. Il y a juste à prendre la grand-mère, les pliants, le saucisson, et vas-y, le pique-nique. Et c'est la journée. Et ça, c'est unique. C'est unique dans le sport. Et ça, c'est très bien décrit. Albert Londres le dit. Il dit, si on m'avait dit qu'il y a trois semaines qu'il y aurait 8 millions de Français qui auraient dansé partout sur les places et tout ça, j'aurais dit, mais il était dingue. Et en fait, oui, il était dingue parce que c'est pas 8, c'est 10 millions.
Oui. Il y avait donc, 10 millions de Français voilà, sur les routes du Tour en 1924. Voilà, 10 millions de Français.
Et les gens, la nuit, sont là partout. Et ça change pas, ça.
Nicolas, votre spectacle est un seul en scène. Vous êtes tout seul sur scène, dans une chambre d'hôtel, qui est surtout une chambre d'hôtel là où est Albert Londres. C'est et ça. Le soir, il télégraphie ses papiers à la rédaction du Petit Parisien, donc chaque soir on a le compte-rendu de l'étape par Albert Londres, il téléphone et puis il y a une carte de France magnifique où vous dessinez au fur et à mesure sur la carte le trajet de ce Tour de France 1924. Et j'ai une dernière question, c'est que durant tout le spectacle, vous avez choisi de mettre des photos en présentation en arrière-fond de la scène, où on voit des coureurs cyclistes de l'époque, hein, tous les gens dont on a parlé ce soir. Pourquoi vous avez voulu qu'on puisse se figurer physiquement ces portraits?
En réalité, c'était peut-être un peu mon inquiétude. Je me suis dit, je manquais peut-être de confiance dans la puissance littéraire au départ. Donc je me suis dit, si des gens peut-être s'ennuient, sont pas intéressés par le vélo, parce que c'est la difficulté de la chose, c'est que, en fait, je le dis dans le programme, je dis oubliez le vélo, en fait tout ça n'a aucune importance. Le vélo n'a pas d'importance. C'est les souvenirs, c'est les hommes, c'est la souffrance, c'est l'investissement, c'est l'individu qui compte. Puis Pierre Ancis qui fait la bande son du tour, ouais. qui lui fait croire qu'on a trouvé des archives. Des gens nous ont dit mais c'est incroyable ces archives radiophoniques que vous avez trouvées. Et en fait bon voilà. Donc c'était un emballage de ces petites chambres d'hôtel miteuses où j'imagine qu'Albert Londres après avoir téléphoné son article disait bah trouvez-moi une photo, j'en sais rien pour faire ambiance.
En tout cas précipitez-vous au Studio Théâtre de la Comédie Française à partir du 11 septembre pour savourer cette mise en scène des Forçats de la Route interprétée et mise en scène par Nicolas Lormeau, sociétaire du Français, une pièce jubilatoire, je le répète. Merci à vous deux d'être venus ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez lire les deux récits que nous avons abordés ce soir. Les Forçats de la Route d'Albert Londres aux éditions Arléa, ça coûte 6 euros. Et Le Triple Champion dévoile ses secrets de Gabriel Garcia Marquez aux éditions So Lonely, 17,90 €. Deux récits extraordinaire. Cette première émission, notre saison 6, a été coachée ce soir par l'éternel H2M, l'inusable, l'increvable Henri-Marc Mutel. Merci Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Paul Percheron. Merci à lui, merci à toute l'équipe de l'Œil du Tigre, Arnaud Jamin pour qui m'assiste à préparer cette émission, et puis Thierry Dupin pour les Scuds et Loïc Saulnier pour les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine avec un mythe maritime, vie et destin d'Éric Tabarly, le skipper solitaire, ou une certaine idée de la France sur les mers. On vous raconte ça dimanche prochain dans l'Œil du Tigre. Rendez-vous à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.